Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le 10 octobre de cette année, 600 scientifiques venus des pays de toute la Méditerranée, réunis au sein d'un réseau de recherche qui s'appelle MedEC, ont présenté un rapport, cité par Le Point et Le Monde, qui désigne la Méditerranée comme une des régions les plus touchées dans le monde par le réchauffement climatique. Quand on évoque les conséquences de ces changements, on pense spontanément aux Maldives, à l'Arctique, au Bangladesh, mais rarement à la French Riviera, aux rives de l'Italie ou à la baie d'Alexandrie. Or, le rapport en question indique que la Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que le reste du globe. Jusque-là, cette partie du monde s'est réchauffée de 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle, alors que la moyenne mondiale est de 1,1 degré. Mais d'ici à 2040, la région devrait connaître une augmentation de 2,2 degrés, pouvant aller jusqu'à 3,8 degrés dans certains endroits, ce qui fait beaucoup. 500 millions d'habitants, rien que ça, sont concernés par les conséquences dramatiques de ce changement de température. Les épisodes de canicule, évidemment, ne vont pas s'arranger, il y en aura plus et souvent. Les écosystèmes seront profondément modifiés et l'état des faits en cascade, listés dans ce rapport, sont à prévoir, hélas. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, on n'en est pas encore là, mais pas loin, avec ces deux histoires que l'on aurait jadis appelées des catastrophes naturelles et dont on sait maintenant que la nature seule n'est pas responsable. Deux sinistres climatiques qui se passent dans le Var, à Draguignan et dans les Alpes-Maritimes, à Sospel, des champs d'olivia à perte de vue, un hameau magnifique encastré dans une vallée avec la Méditerranée au loin. Et pourtant, un tableau qui s'éloigne de plus en plus du cliché des cartes postales. Ce sont deux récits racontés par Sophia Fischer.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça monte, hein ?
Ouais. Et encore, là, on n'est pas trop chargé. Quand il y a les courses, c'est autre chose. Je vais essayer de viser un peu l'autonomie alimentaire. Planter des patates, planter des trucs qui font de la calorie pour me préparer à la fin du monde.
Voilà,
tu vois en face, Mont Penas à 1000, Faisalunga à 1000,
Col de Grosse à 1000,
avec redescente vers Nice. Voilà.
Moi je m'appelle Ludovic, alors j'ai 31 ans, je suis dans la communication, j'habite en Provence depuis ma naissance. À Sospel, donc c'est une petite ville, un gros village de l'arrière-pays provençal. C'est dans une vallée et c'est entouré par les montagnes en fait, hein, à 30 minutes de Menton. Le sol à Sospel, il est assez particulier, c'est beaucoup de gypse. Avec l'eau, il réagit assez mal. Ça pose un peu des problèmes partout dans la commune d'ailleurs. Hein. On a des trous qui apparaissent sous le goudron de certaines routes. On a des pans de route qui tombent bien sûr, des montagnes qui s'affaissent. Enfin voilà, on a ce genre de problème qui est en général concomitant avec les grosses pluies ou les pluies ininterrompues durant plusieurs jours. Alors la nuit du 12 au 13 avril, il y avait eu des pluies quand même notables. Et le matin, je me lève, ma compagne fait un petit saut sur Facebook avec le téléphone et elle tombe en fait sur une photo d'un garagiste de Sospel qui lui, en débutant sa journée de travail, voit la montagne qui est partie. Et il prend une photo, il la poste sur Facebook en mode « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Ma compagne me dit « Chérie, la route est tombée. » Donc moi, plutôt confiant, je lui dis « Oui, bon, ben voilà, on va marcher 4 mois et puis c'est bon. » Ça s'est déjà produit dans le passé, que la route soit un peu bloquée à cause des glissements, à cause des éboulements. Bon, ça va, on survivra. Hein. Puis elle me dit « Non, chérie, elle est vraiment tombée !» Et puis là, elle m'amène le téléphone, elle me montre la photo donc, qui avait été postée. Et là, effectivement, c'est assez choquant parce que, enfin, il n'y avait plus de route, il n'y avait plus de montagne, et tout le pan de montagne était parti. Quoi. C'est 200 ou 300 000 mètres cubes de terre. En hauteur, je crois que facile, on doit atteindre les 100 mètres de haut, en fait, hein, verticalement, en altitude, qui sont partis. Donc la seule route a été emportée donc par le glissement qui s'est déroulé assez vite. On n'a pas entendu de bruit. On est entre 50 et 70 personnes qui vivent dans les trois quartiers touchés par la catastrophe. C'était la seule route qui permettait de rejoindre les quartiers concernés, à savoir Beyrouf, Serre de Sarreta et Sainte-Sabine. Ces trois quartiers se sont retrouvés instantanément coupés du monde, en fait, et reliés uniquement au village via des sentiers, on va dire, de grande randonnée. Hein. C'est pas des sentiers de plaisance, hein. On est quand même dans des sentiers de haute montagne, où on peut chuter et rouler pendant 100 mètres, tant qu'on rencontre pas un arbre ou un buisson pour nous arrêter. Donc, le sentier le plus court, c'est 200 mètres d'altitude, 800 mètres de long, donc on peut se faire une idée de l'inclinaison, qui est quand même du coup très importante sur ce dernier. L'autre sentier par le haut, qui lui est un GR, lui, il est plus cool entre guillemets, mais par contre, il est en plein soleil. Ce dernier est également pavé, enfin c'est une calade. Donc dès qu'il pleut, les pierres s'agglissent avec des semelles de chaussures de randonnée modernes, et ben on se casse la gueule. La route étant tombée en pleine nuit, à part une personne et quelques autres qui ont eu de la chance, comme moi, les véhicules des personnes étaient bloqués en haut du coup. Les deux premiers héliportages, donc ça s'est passé le premier ou le deuxième mois, ont permis quand même de descendre quasiment une vingtaine de véhicules. Il y a des personnes, pour descendre leurs véhicules, qui ont dû démonter les portières, désosser des véhicules entièrement, c'est-à-dire bloc moteur tombé, portière tombée, les roues tout enlevées, le véhicule coupé en deux pour pouvoir le descendre en deux fois, quoi. Alors, il faut savoir que l'hélicoptère, ça coûte assez cher. 1 500 € pour le faire venir et plusieurs centaines d'euros de la minute. On a réussi à autofinancer la chose en grande partie avec les dons et les aides. Alors, on a eu de l'aide de groupes locaux type Rotary Club, on a eu des aides d'associations et on a eu aussi une aide de la mairie. La maire, elle est venue quand même toutes les semaines, elle montait les chaussures de rando, le sac à dos et elle montait nous expliquer un peu voilà, où ça en était, ce qui avait été fait, ce qui restait à faire. Alors la catastrophe a été reconnue catastrophe naturelle, ouais, la mairie n'avait pas grand espoir que ce soit le cas, mais elle l'a été. Et nous, à titre individuel, ça nous a servi à rien directement. Parce que les maisons n'ayant pas été touchées directement, les assurances n'ont rien couvert du tout. Alors on a fait sans. Donc il a fallu s'organiser pour déjà s'approvisionner dans tout ce qui est denrées de base, nourriture, les consommables habituels, tout ce qui... voilà. Réfléchir à quoi monter, quoi ne plus monter. Alors ça s'est passé en avril, donc en avril on pouvait encore remonter certaines choses, notamment produits frais sans grand risque. Par contre, dès que l'été est arrivé, on oubliait les surgelés clairement, hein, et puis les produits frais, c'était pas non plus garanti, quoi. Il fallait monter vite. C'est impossible de donner une durée, pour différentes raisons. Déjà il y a la fatigue qui joue énormément. Également l'équipement, est-ce qu'on a des bonnes chaussures, de mauvaises chaussures? Est-ce qu'on est chargé, pas chargé? Quand on remonte un sentier comme ça qui est à 10-30 degrés d'inclinaison, le moindre kilo, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de fatigue en plus, et donc on est ralenti d'autant. Est-ce qu'on a des choses fragiles avec soi? Les œufs, par exemple, ça semble tout bête, mais les œufs à remonter dans un sac à dos, c'est pas tout à fait adapté quand même, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Pas de route, c'est remonter sous des trompes d'eau quand il pleut, parce que ben, on peut pas attendre... S'il pleut 3 jours, on ne va pas attendre 3 jours chez les gens, il faut remonter chez soi, quoi. Donc remonter sous la pluie, descendre sous la pluie, sous la neige, sous la grêle. Beaucoup de personnes nous disaient « Et comment vous allez faire l'hiver ?» Et moi, le premier truc qui m'est venu, mais c'est comment on va faire l'été, avec le chaud. On est obligé d'attendre qu'il fasse nuit, que le climat soit un peu plus clément, la température. Et du coup, on en rentre à des heures pas croyables, on rentre à 8-9 heures à la maison. Parce que l'après-midi, on ne peut plus remonter. C'est infaisable, il fait trop chaud, on n'en peut plus. Déjà vide, on n'en peut plus, mais alors avec les courses, infaisable. Et puis pour les personnes âgées, dangereux. Dangereux parce que c'est vraiment un coup à faire un malaise, quoi. Il fait, quand on se tape 38 degrés, voire plus à l'ombre, qu'en plus il faut grimper, avec 10 kilos sur le dos, c'est... Ouais, non, c'est... Alors là, le glissement de terrain a été causé par la pluie, mais l'activité physique qui est rendue obligatoire par la situation, c'est avec le chaud qu'elle se marie mal. Et... Pas de route, ça veut dire rien pouvoir prévoir, hésiter au moindre rendez-vous. Oh, est-ce que la grippe que j'ai, elle est si grave que ça? Est-ce que ça vaut le coup que je descende? Et puis en fin de compte, peut-être que 2 jours après, on est mort. Parce qu'on a eu la flemme de descendre en médecin, parce que c'est voilà. Les sorties, dans les grandes lignes, c'est quand même vachement compromis. Est-ce que avec quand on a bu un pichet de rosé, qu'on finit un resto avec les amis à 23h ou à minuit, est-ce qu'après on se sent de remonter 400 mètres de dénivelé et 4 km de sentiers escarpés, on s'arrête sur le bord de la route, on change de chaussures, on met les pompes de rando, on enlève la petite chemise sympa à fleurs et puis on met un t-shirt respirant, et puis go quoi, on charge le sac à dos de course parce que surtout, faut jamais remonter à vide, parce qu'un être humain... Qu'est-ce que ça bouffe ? On génère une quantité de déchets qui est phénoménale. Après, nous, les déchets, là, ça doit faire 8 mois, on les descend plus. Hein. Soit on fait des tas en attendant qu'il y ait la route pour tout redescendre en une fois, soit on brûle. À cela, il faut ajouter ce qui avait posé énormément de problèmes du début, l'hygiène corporelle. C'est-à-dire, on est dans des sentiers qui sont boueux, qui sont régulièrement envahis par la végétation. Quand on fait un travail de bureau où on a besoin d'être un minimum, on va dire, propre, on ne peut pas se permettre d'arriver dégueulasse, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on se change? Et où est-ce qu'on peut mettre des fringues de rechange? Où est-ce qu'on va pas, on se les trimballe dans le sac à dos tout le temps, dans la voiture? Comment est-ce qu'on fait? Donc, il y a eu la mise en place de conteneurs de bateaux qui ont été déposés pour qu'on puisse avoir un mini pied-à-terre dans lequel on a pu installer des étagères que les gens peuvent utiliser pour se changer et stocker des marchandises, voire des fois des provisions, le temps de les remonter en plusieurs fois. Alors bon, bah ça craint parce que ça prend le soleil, ça prend l'humidité, mais c'est mieux que rien, quoi. Et je me suis dit, bon, alors comment ils faisaient avant? Et avant, ils avaient des mules. Si c'est que ça, on achète une mule. Donc, je me suis renseigné. Alors, la mule la plus proche, c'était à Gap. Donc, c'est Gap, c'est, je sais pas, 400 km. Et puis surtout, une mule, ça coûte plus cher qu'une Twingo. Donc, du coup, on peut pas dire on fait comme avant parce que c'est plus possible. En fait, une mule aujourd'hui, c'est, je crois, 3000 euros. Et puis après, il faut la nourrir, quoi, parce que je veux dire que l'été va bien, elle mange, mais l'hiver, elle mange quoi, la mule? Ben, il faut lui monter le foin. Ah ouais, ben, allez, du coup, c'est qui monte le foin? Ah ben oui, c'est nous. Faire une randonnée, c'est un loisir. C'est-à-dire quelques heures, on sait quand ça se termine, on sait quand ça commence, on fait son sac et puis on y va. Nous, c'est différent, c'est-à-dire que le sac est déjà dans la grande majeure partie du temps fait, pour gagner du temps et pour moins risquer d'oublier. Moi, dans mon sac, j'ai pas mal de trucs. J'ai une alimentation 5 volts USB pour recharger le téléphone. Un bloc-notes, un stylo, des mousquetons, parce qu'on peut accrocher les courses. Parce que quand le sac est plein, bah, on accroche au sac. Ici, j'ai des lunettes de soleil. Là, j'ai une casquette pour le soleil, mais aussi pour la pluie. Déodorant. Une serviette, pareil, qu'on a transpiré, qu'on est en sueur. Poche d'hydratation pour avoir l'eau. C'est quand même plus pratique qu'une gourde, je trouve. Et puis on a le tuyau toujours accessible. Ça a été un achat fait pour l'occasion. Ici, enceinte Bluetooth pour s'occuper en montant et en descendant le sentier. Parce que bah, quand on est tout seul dans le sentier, qu'il n'y a personne à qui parler, des fois on s'emmerde un peu sévère. Alors on se met une vidéo YouTube, on se met un truc comme ça. Hein. Parce que oui, dans le sentier, attention, mais on a la 4G plein pot, il n'y a pas de soucis. Hein. On est dérouté, mais on n'est pas trop déconnecté encore. Lampe de secours ici, donc pour les cochons et trucs comme ça. La lumière, c'est le meilleur moyen de faire peur à un animal sauvage. Hein. Ici, on a la trousse à pharmacie. Pince à tique, coton-tige, sérum fi et ce genre de trucs. Et alors ça, hop, un petit fascicule avec les gestes d'urgence pour les soins à la personne. Parce qu'au cas où j'ai pas accès à Wikipédia sur le téléphone, ben voilà. Ici, l'art de la guerre par Sun Tzu. C'est pas fini, j'ai pas le temps de lire. 4 kilos. Pour 4 kilos à vide, ouais. Alors au début, on avait encore la pêche, mais maintenant, c'est sûr qu'on en a marre. Hein. Il y a la lassitude, parce que c'est pas que physique, c'est pas genre qu'une fatigue physique. On a quand même vachement ralenti les restos, les trucs comme ça, quoi. Au début, on a maintenu tous ces trucs-là, pour pas devenir fou, mais là, après, sur la distance, on perd la pêche. Hein. Là, jusqu'à il y a quelques mois, on était encore en mode, enfin moi en tout cas, j'étais encore en mode, ça viendra quand ça viendra, on n'y peut rien, on attend, et puis quand il sera là, hein. Qu'est-ce que, on peut rien faire. Non, là, ouais, voilà, on compte les mois quand même, jusqu'à la route. Parce que, eh oui, il a été décidé de refaire une nouvelle route, faute de pouvoir réparer l'ancienne due à la nature des sols. Et donc, là, normalement, la route, c'est cadeau de Noël. Un an, ça a été le temps de faire de l'administratif paperasse. Que la route prenne du temps à être construite, je pense que tout le monde peut le comprendre, et tout le monde l'a compris. Mais par contre, qu'il faille un an pour lancer les travaux, si en France, on n'est pas capable de faire une piste en terre, attention, une piste en terre, hein, je précise, hein, parce que la route ne sera pas goudronnée. On va nous faire une piste en terre de 2 millions d'euros. Avec cette histoire, je me suis rendu compte que alors les gens, c'est un fait, mais même la société n'est pas du tout prête pour faire face au réchauffement climatique. Moi, c'était la génération, je suis né en 88, c'était déjà une des générations où on nous bourrait le mou avec le sida, le réchauffement climatique, le trou dans la couche d'ozone. Sauf que moi, le réchauffement climatique, dans ma tête, c'était un truc un peu abstrait. Je me rappelle quand j'étais enfant. On nous disait ça, on disait, ouais, bon, ça va quand même, c'est une planète. On va pas tuer la planète en genre 25 ans et 3 mois non plus. Ça va, quoi, la planète, elle a combien de millions d'années? elle va survivre quand même. Mais le fait est que aujourd'hui, c'est plus un truc abstrait, c'est visible. Il n'y a plus d'entre-saisons. Il est où le printemps, il est où l'automne là ? Vacances. Partis en vacances, ils sont plus là, on les voit plus. La pluie pareil, nous dans le sud, on a un climat de mousson, on vire à un climat tropical dans le sud de la France. Et le problème, c'est que quand la terre elle s'engorge comme ça, comme à Sospel, il y a du gypse partout, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui part, il y a tout qui tombe. Alors après, le gypse, il y a toujours été, hein. C'est pas le réchauffement climatique qui a amené le gypse à Sospel, bien sûr. Mais le fait qu'il y ait de plus en plus de pluie, ça crée des problèmes majoritairement à des endroits comme ça. Je pense que le fond du problème, c'est surtout si demain on coupe un peu tout, ou si demain on entre dans une grosse décroissance, il y aura beaucoup de gens qui seront complètement perdus et qui seront inaptes à survivre, en fait. Parce que là, on l'a vu, il y a des personnes qui étaient présentes ici, des propriétaires, qui, faute de pouvoir marcher, ont dû abandonner leur domicile. À terme, ça aura porté la déroute à un peu plus d'une année et demie. On me posait la question il y a quelques mois, on me demandait est-ce que ça va être bien quand vous allez avoir la route ? Et je disais, mais faut pas dire ça, c'est pas que ça va être bien quand on aura, c'est juste retour à la normalité. On récupère juste une vie qu'on avait avant, en fait.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Max Oléato. Je suis oléiculteur maître de moulin, au moulin du Flaïosqué, dans le Var, sur la commune de Draguignan. Et j'ai 53 ans. Alors ce moulin, moi je l'exploite depuis 30 ans, et il est dans ma famille depuis 5 générations. Mes oliviers sont en bio, donc le moulin est agréé en bio, et donc le process de fabrication dans mon moulin est un process traditionnel. J'exploite 5000 oliviers, dont 3000 en fermage. Alors en fermage, c'est-à-dire que ce sont des oliviers que je loue à des propriétaires. Depuis 2010, on cumule des mauvaises récoltes dues à un changement climatique bien marqué depuis les inondations de 2010. Ça a été vraiment une année difficile pour moi. Quand je dis difficile, en 2010, le 15 juin 2010, il était 14h, j'étais en train de faire le grand ménage de printemps dans le moulin, avant la saison touristique, dans la boutique du moulin. Et à 14h, depuis l'intérieur du moulin, j'ai eu l'impression d'entendre un camion qui tournait en permanence et qui était garé à quelques dizaines de mètres du moulin. Et là, je suis monté à l'étage, j'ai ouvert la fenêtre, et il pleuvait tellement qu'on ne pouvait pas voir à 10 mètres, mais il pleuvait depuis la veille. Le cours d'eau qui habituellement fait 2 mètres de large quand il est en crue sur 2 mètres de haut, à 14h de l'après-midi, il faisait 50 à 60 mètres de large sur 5 mètres de haut. Là, j'ai décidé de prendre mes papiers ce jour-là sur moi, de prendre ma combinaison de moto qui était étanche, et puis d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur la route. Et nous avons commencé à intervenir dans des maisons où les gens étaient bloqués par l'eau. On a commencé à sortir des gens de leur maison où ils avaient déjà 1 mètre, 1 mètre 50 d'eau dans la maison, sachant que souvent c'était des personnes âgées, quoi. Je m'en souviens comme si c'était hier. Toujours est-il que en 2010, sur Draguignan, il y a eu 29 morts. On aurait pu éviter certains morts si nos politiques avaient pris conscience de l'ampleur du phénomène, si on avait écouté un petit peu aussi les paysans. Donc 2010, au-delà de l'impact psychologique, qui est non négligeable, puisque je n'ai pas pu en parler pendant peut-être 6 mois, il y a aussi l'impact financier depuis 2010, puisque j'ai eu une somme astronomique de dégâts. J'ai fini par avoir une indemnité de 10% du montant de 2010, sachant qu'en 2010, j'ai eu pratiquement pour 1 million de dégâts sur l'ensemble de mon exploitation. J'ai fait un burn-out en 2013 qui, je pense, est très lié à cet épisode de 2010. Pour moi, le burn-out, c'est une forme d'AVC où on n'a pas de séquelles physiques apparentes, quoi, mais où les neurones, elles sont grillées à tout jamais. Il y a des choses, je bloque, j'y arrive plus. je ne sais plus par quel bout les prendre. C'est un problème récurrent qui vient se greffer aux mauvaises récoltes. Depuis 2010, j'ai fait 4 récoltes à moins 50, une année à moins 75, une année à zéro. Donc là, zéro, ça fait mal, quoi. Quand on voit qu'on a travaillé toute une année pour en définitive ne rien récolter, c'est une perte totale, sèche. Et cette année, c'est une année encore plutôt catastrophique en termes de récolte due à une grosse sécheresse qui dure, qui perdure et qui vient se rajouter aux années précédentes. Et de mémoire, après novembre, il n'y a plus de pluie. Jusqu'au mois de mars, quoi. Et un été très sec et très chaud. J'ai commencé à m'inquiéter, donc au moment où je me suis rendu compte que la pollinisation était mauvaise, les oliviers fleurissent et il peut y avoir de belles montées de grappes, de fleurs, mais par contre, ensuite, quand ils fleurissent, il y a la pollinisation qui doit se faire. Donc ils s'ouvrent et ça reste ouvert quelques jours, et là, la pollinisation se fait, et puis après, s'il y a une pollinisation, la fleur se transforme en olive. En l'occurrence, on n'a pas eu de pollinisation, quoi, parce qu'il faisait trop sec au moment de la pollinisation. Ah, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. Là, il y a des oliviers où il n'y a rien. Ah non, je vois trois olives, là, sur cette branche. Trois, c'est énorme. Il y a des gens qui demandent pourquoi vous arrosez pas, mais... Il faut aussi penser à l'impact que l'on a attiré dans les nappes phréatiques, surtout pour des cultures qui, à la base, n'en ont pas besoin. C'est s'épuiser dans des ressources qui vont faire défaut, quoi. Et je pense que si je fais 300 kg d'olives, 400 kg d'olives, ce sera le bout du monde. De mémoire des anciens, il n'y a pas eu d'années de sécheresse successives qui ont autant impacté la végétation et donc forcément les oliviers que depuis ces dernières années, quoi. Avec le changement climatique, c'est les yeux fixés sur la météo à la télé en se disant « mais c'est quand qu'ils ou elles vont nous dire qu'il va pleuvoir ?» quoi, en espérant que les prévisionnistes ne se trompent pas, quoi. Mais je ne regarde plus la météo, ni dans le journal, ni à la télé. Parce que même les météorologues n'arrivent plus vraiment à prévoir le temps qu'il va faire, les précipitations. Donc non, je ne regarde plus la météo, je regarde le ciel. Mais le ciel auparavant, il y a 20 ans, on pouvait le prévoir. On savait que quand le ciel était rouge le matin, rouge du matin, la pluie est en camion. Rouge du matin, la pluie est en chemin. Donc on savait qu'il allait pleuvoir dans la journée. Rouge d'Auxerre, espère. Rouge du soir, espoir. Donc on savait qu'il allait faire beau le lendemain. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On ne peut plus se fier au temps que l'on voit la veille pour dire le temps qu'il va faire demain. Ouais, c'est plus des prières intérieures qu'un véritable discours, quoi. Parce que les discours, ils font pas forcément pleuvoir. Même les danses, je crois pas, elles font pas pleuvoir, quoi. Voilà. Aujourd'hui, par les pluies, c'est toujours un problème. Soit parce qu'il en manque, soit parce que ça arrive trop d'un coup, quoi. Quand je perds 80% de la récolte, 5000 oliviers, allez, à 20 kg par arbre, 5 fois 2, 10, ça devrait faire 100 tonnes d'olives, ça n'en fera que 20. Donc, vous pouvez voir l'impact financier que cela peut engendrer. D'autant que toute l'année, au moment de la taille, j'ai taillé mes oliviers, donc j'ai passé du temps, j'ai usé mon matériel, mon sécateur, la batterie de mon sécateur électrique, j'ai usé mon véhicule, j'ai acheté de la fumure, puisque je suis en bio, donc je les fume de façon naturelle, ça a un coût aussi, j'ai passé... du temps au mois d'août pour couper les rejets au pied, j'ai passé du temps pour les débroussailler, là aussi ça a un coût. Donc toute l'année j'y mets de l'argent dedans, et à la fin de l'année, je récolte pas ou peu, et peu suffisamment pour rentabiliser, pour couvrir les frais de l'année, quoi. Et ça, quand je discute avec des clients, des fois je leur dis, imaginez-vous, être payé qu'en fin d'année. Et en fin d'année, en fonction des conditions climatiques, on vous dit, on avait prévu que votre salaire soit de, allez, le SMIC net par mois, en définitive, non, il sera que de la moitié ou du quart. Imaginez travailler toute l'année et avoir zéro ou quasiment rien en fin d'année. Ça oblige à certains sacrifices, ça empêche aussi tout simplement des réparations sur le moulin, des investissements qui devraient se faire. Pour vous donner une idée, quand j'étais petit, j'entendais dire à mon grand-père « faut refaire la toulisse dans le moulin, il faut refaire la toiture du moulin ». Et mon grand-père est décédé en 85, nous sommes en 2019 et la toiture n'est toujours pas refaite. Et je vais réduire l'équipe en nombre et dans la durée, parce que je pense que la récolte va être très très vite faite. Quoi. Si moi demain j'arrête, que va devenir le moulin? Ça personne ne peut le dire. Peut-être le vendre pour en faire une habitation, peut-être le transformer en chambre d'hôte. Personne ne pourra dire ce qu'il deviendra si j'arrête. Et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le transmettre à mes enfants. Leur transmettre quelque chose qui reste plus d'être une contrainte, un poids. Le métier est déjà difficile en temps normal, quand le climat est normal. Mais là, avec un changement climatique tel qu'on le vit, non, je n'ai pas forcément envie de leur transmettre. Si on se projette dans l'avenir, ben, l'avenir il est très sombre, quoi. Donc j'essaie d'être un peu plus fataliste, j'essaie de garder les quatre cheveux qui me restent sur la tête et de me dire ben, que tant que j'ai la santé et la vigueur pour avancer, c'est déjà bien. Et puis tant que j'ai un petit peu d'huile d'olive pour mettre sur ma salade ou sur mes pois chiches, c'est aussi sympa, quoi, voilà.
Derrière elle, des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde. D'un tournesol dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
C'était des sinistrés climatiques au bord de la Méditerranée, un reportage de Sophia Fischer réalisé par Clémence Grosse. Merci à Max et à Ludovic, à Jacques, à Véronique Bérouf, ainsi qu'à Mélissa Foust et à Aurélie Marseille qui sont les attachés de production des Pieds sur Terre.